Eh bien aujourd'hui je reçois les Orléanais de Burning Heads à l'occasion du Rafale Alençon qui aura lieu ce soir à la Halle Toile d'Alençon. Eh bien j'ai juste en face de moi Thomas et à ma gauche j'ai JB. Comment ça va les gars?
Eh, ça va bien. Et toi?
Bonsoir, tout va bien.
Alors pour faire une brève présentation des Burning Heads, c'est 30 ans d'existence. Vous avez une discographie plutôt riche, c'est moins qu'on puisse dire, avec pas moins de 13 albums, plusieurs EP, quelques splits avec des groupes comme The Adolescent par exemple, Unconomen from Mars, et votre dernier album, Snowman Choose Your Trap, est sorti en 2014.
C'est ça.
Donc depuis 96, hein, on a eu la chance de pouvoir vous voir hein, sur scène un petit peu partout en France, même ailleurs, et plus vous prenez de l'âge, et plus j'ai l'impression que vous déployez une énergie folle sur scène. Toi JB, je te vois sauter un peu partout. Qu'est-ce qui vous donne encore autant d'énergie comme ça au bout de 30 ans d'existence?
La scène, les concerts, le fait de jouer notre musique devant des gens qui viennent nous voir pour ça, et voilà, c'est ça qui nous motive.
Ouais, ça donne de l'énergie, et puis on n'est pas encore trop rouillé, donc tant que nos vieux corps nous permettent de faire encore des trucs.
Sauf que le lendemain de concert.
Voilà, c'est ça. Mais le soir, on essaye d'être encore un peu jeune, et donc de déployer de l'énergie. Non, et puis c'est... En fait, c'est propre à cette musique. Si tu fais du punk rock qui donne envie de dormir, c'est plus vraiment le propos. Il faut faire... voilà. Le jour où on n'a plus suffisamment de force pour en mettre dans le punk rock, on choisira une autre musique ou on arrêtera. Mais pour l'instant, tant qu'on a encore la patate, on essaye de mettre ça dans le punk.
Et quand vous avez commencé à jouer, est-ce que vous pensez que 30 ans après, vous seriez encore sur scène? Non du tout.
Non, mais en même temps.
On pensait à rien. On pensait pas qu'on n'y serait pas, mais on pensait pas qu'on y serait.
Ouais.
On pensait à rien du tout.
On pensait à jouer et à faire des concerts. Et c'est toujours ce qu'on fait. On pensait à jouer et à faire des concerts.
On n'avait pas spécialement fait de plan sur la moquette. Pas de plan de carrière, rien du tout. Surtout, on pensait à vraiment faire les choses bien au bon moment. Mais voilà, il y avait pas de projection dans le futur.
En tout cas, pendant ces 30 ans, hein, vous avez été un petit peu des adeptes des tournées marathon. Je me rappelle la fameuse tournée 50 dates en 100 jours, c'est ça?
En 50 jours.
En 50 jours.
Sinon, c'est pas drôle.
50 dates, 50 jours. C'était, je me rappelle du votre joli petit tourbus et tout. C'était vraiment marathon. Ça a dû être physiquement, j'imagine que ça devait être compliqué à la fin quand même, non?
C'est plus mentalement, c'est assez effrayant avant que tu commences. C'est aussi un peu effrayant les 5 premiers jours. Et puis après, une fois que le rythme est parti, une fois que tu es dans le truc, physiquement, ça tu perds un peu de voix, mais tu gagnes un peu de muscle. Tu perds quelques neurones et quelques heures de sommeil tous les jours.
Beaucoup de neurones.
Mais au final, il y a quand même une énergie tous les soirs, comme disait JB, la scène, les gens qui viennent nous voir. Déjà, ça motive. Et puis, une fois que tu as fait 10 concerts, tu as envie d'en faire un 11e. Une fois que tu en as fait 49, il n'y a pas de problème pour le 50e.
Et c'est pas pour rien qu'on avait un beau tourbus noir. C'est pas pour la crise. C'était juste que pouvoir faire les 50 dates en 50 jours.
C'est une situation confortable quand même.
Voilà, ça permet de pas dormir à l'hôtel, c'est-à-dire de rentrer dans le bus directement après la soirée, parce qu'on va pas dire directement après le concert, et de se réveiller le lendemain directement à la salle, sans avoir à passer par l'hôtel, se réveiller à 8h du mat pour prendre la route. Et donc, on dormait dans le bus, et ça nous a permis aussi de pouvoir supporter ça, parce que ça permettait d'avoir des nuits suffisamment longues pour pouvoir reposer son corps pour le lendemain faire le concert.
Et reposer sa voix aussi. Pour qu'on puisse chanter à la fin des 50 dates, il fallait quelques nuits un peu longues. Merci au tourbus.
Alors on ne peut pas vous qualifier hein, totalement de groupe punk, hein, parce que vous aimez aussi jouer du dub par exemple, de temps à autre. Vous avez même exploré un peu la drum and bass, il me semble, hein, il y a quelques années. Ouais. C'était avec Alif Sound System. Il y avait des petites collaborations sympas comme ça à l'époque. D'ailleurs, vous avez sorti quelques beaux disques hein, en la matière comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
En fait, on aime le punk, mais avant tout, on aime la musique. Et certaines fois, il y a d'autres musiques plus ou moins éloignées du punk, mais qui sont faites avec un peu le même état d'esprit. Et comme on est des grands gourmands de musique et qu'on est toujours à l'affût d'un nouveau truc, on a eu beaucoup de plaisir à écouter certains trucs dans l'électronique, d'autres choses dans le reggae et dans le dub. Voilà, et puis on part du principe que si tu le fais d'une certaine façon, tu ne trahis ni ta musique, ni ton message, ni ton public.
Bon, puis l'électro, on y est arrivé par glissement, c'est-à-dire qu'on a au début du groupe, il y avait du punk rock bien sûr, mais il y avait aussi du reggae. Et le reggae, enfin, l'électronique est venue après, et il y a pas mal de sons reggae qui ont été pris pour mettre dans l'électronique, et il y a tout un... Enfin, ça, il y a eu un glissement comme ça qui a fait que bah, nous aussi, on a un peu tendu à écouter cette musique-là, à aimer cette musique-là et à venir à jouer cette musique-là, parce qu'on joue la musique qu'on aime. Quand on joue du punk rock, du reggae ou des espèces de trucs hybrides électro, c'est des trucs qui nous touchent et qu'on a envie de, voilà, de bidouiller et puis
de retranscrire.
À propos de musique que vous aimez particulièrement, régulièrement vous faites une reprise de The Adolescent, le morceau No Way.
Ouais.
Est-ce que vous allez le jouer ce soir?
Oui, il y a des chances.
Ah, génial.
C'est possible. C'est un peu, ouais.
C'est comme Metallica avec la reprise des Misfits. Ouais, c'est à peu près pareil. S'il y a un concert où la joue pas, tu te dis, ils sont peut-être malades.
Ouais, ils n'ont pas eu le temps. Mais...
Ouais.
Justement, dans les différentes collaborations que vous avez pu faire comme ça avec d'autres artistes, alors on parlait enfin à l'instant, on parlait des adolescentes, je sais pas, on a parlé aussi d'Alif Saint System. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres?
Ben, non, à partir du moment où on est assez touche à tout, on est assez, mais on a du mal à faire des trucs avec des gens. On a du mal à s'entourer. Voilà. Déjà, on trouve que le sport d'équipe, le seul qu'on a réussi à faire, c'est la musique, à quatre. On a du mal à trouver des gens autour. Alors moi, je dirais qu'à partir du moment où on arrive à finaliser un projet de mélange de fanfare, comme on a fait avec Adolescents, Uncommon Men, Vulgaire Machin, Alif Sound System, on a réussi la mission qui, pour les Burning Heads, n'est pas la plus facile. Et donc, on a été très, très contents de toutes les expériences qu'on a fait en fusionnant avec d'autres entités.
Alors je me rappelle, hein, à la fin des années 90, vous aviez signé chez Epitaph, label prestigieux de Offspring, NoFX par exemple, qui vous a peut-être permis, enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait grâce à ce label, mais vous avez, à cette période, vous avez aussi fait quelques jolies petites dates aux États-Unis par exemple, et puis vous avez créé Opposite Prod. Alors pourquoi vous avez quitté ce premier label pour aller chez, enfin pour monter votre propre label?
Il y a un peu des raccourcis dans ce que tu dis.
Ah, probablement,
ouais,
d'accord.
Ouais, ouais.
Vas-y, je te laisse rectifier. Non.
Bah déjà, c'est pas Epitaph, US.
Enfin,
c'est une écurie d'Epitaph, mais c'est Epitaph Europe qui a voulu monter sa propre écurie de groupe européen.
D'accord.
En se servant du label, du réseau qu'ils avaient pu. En fait, Epitaph US a eu besoin d'un pied en Europe pour pouvoir distribuer ses disques, ses artistes. Et une fois qu'ils avaient fait ça, il y a une grosse sécurité, enfin il y a une grosse boîte qui s'est retrouvée à Amsterdam, et ils se sont dit bon bah nous voilà, on a la distribution, c'est cool, maintenant on va essayer de monter notre propre label sous le nom d'Epitaph, mais ça restera européen, ça n'a rien à voir avec Epitaph US, et on va essayer de faire pareil et de trouver la poule aux œufs d'or qui sera le offspring européen qui nous rapportera la thune, et comme ça on va gagner du pognon.
D'accord.
Donc ils ont essayé ils sont restés un peu dans le style punk rock, parce que c'était le style Epitaph, c'était le style qui marchait pas mal à cette époque-là. Et ils ont signé plusieurs groupes européens, donc nous on était avec Aïdorogis, il y avait Terror Groupe, il y avait
Eye Against Eye
des Hollandais, il y aurait dû y avoir NRA, ça n'a jamais pu se faire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je sais plus, Indéclinable, c'était sur...
Oui, Indéclinable Embuscade.
Ouais. Donc il y avait pas mal de petits groupes comme ça, et ils n'ont jamais réussi à... En fait, ils sont complètement plantés, parce que... Voilà, c'est pas, c'était dans l'air du temps, effectivement, pour les groupes américains, mais ça n'a pas eu ce suivi-là en Europe.
Mais ceci dit, même si on n'a pas explosé le jackpot comme eux l'auraient souhaité, on a profité de cette étiquette, de ce label, de cette enseigne Epitaph qui avait le vent en poupe à l'époque, comme disait JB, c'était plutôt populaire, pour tourner en Europe, surtout, où là, vraiment, la petite notoriété qu'on avait commencé à construire s'est trouvée renforcée avec cette signature. Ça a été beaucoup plus facile de tourner en Europe. À la suite de ça, on a fait quelques incursions aux États-Unis, et même pour un des albums d'Epitaph, le deuxième, on l'a enregistré aux États-Unis, on en a profité pour faire des concerts. Voilà, il y a eu une licence chez Victory, mais ça n'a pas aidé particulièrement les Burning aux États-Unis. Après ça, pour l'Europe, c'était très très bien. Et le raccourci que tu as fait aussi, c'est que à la fin d'Epitaph, on a signé chez Yelen.
Ah oui, il y avait Yelen.
Division de Sony Music avec Patricia Bonto, paix à son âme, qui nous a signé pour le premier Opposite. Ouais. Voilà, donc elle a pris des risques, elle a signé les Burnings sur un terrain où on ne les attendait pas vraiment, vraiment, ouais, pas complètement.
Chez les Hélène, il y a eu Opposite, il y a eu Bass Project, donc avec Alice ouais. System, ouais. Taranto aussi entre les deux.
Les trois ovnis, trois gros ovnis des Burning Heads sont sur Hélène. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas, on n'a rien programmé, mais il se trouve que c'est comme ça. Et après Hélène, quand Patricia Bonto s'est fait virer, nous n'avions plus de raison d'y rester, puisque c'était plus une amitié qu'une réelle relation entre un artiste et une maison de disques. Donc on est parti et on a décidé, après avoir fait un peu le tour de tout ce qui se faisait, d'essayer de créer un label. Donc voilà, entre Epitaph et Opposite, il y a eu Hélène.
Donc il a fallu apprendre de nouvelles choses, j'imagine, parce que la vie d'un musicien et la vie d'un responsable de label, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Ouais, mais on a géré un label comme un musicien, donc on a fait n'importe quoi et on n'a rien appris de plus. Mais comme les Burning le font souvent.
Ouais, puis du coup, c'est pas vraiment nous qui gérons. Enfin, maintenant, c'est pas vraiment nous qui gérons ça. On le gère un peu de loin et on est vachement aidé dans tout ce qui est relation entre le label et
le monde.
Et le monde, ouais.
Voilà, on est tombé sur des mecs sérieux qui, eux, sont en place déjà sérieux, droit dans leurs bottes et avec encore un cerveau qui fonctionne pour ce genre de truc que nous autres artistes trouvons un peu dur à aborder.
Ok, alors au début des années 90, il me semble qu'à la sortie de l'album Tostaki Noir Désir, vous avez fait quelques premières parties avec eux, non?
Ouais, on a eu la chance. On a eu la chance d'avoir été choisis parmi. Il y avait quelques groupes qui avaient comme ça été choisis pour faire les tournées de.
Quel groupe? 5 groupes?
4 ou 5 groupes, et voilà. Et nous, on en faisait partie. Donc on a joué devant des salles super remplies, qui étaient complètes déjà un mois à l'avance, avec des énormes sonos. On est tombé sur une équipe technique très sympa, sur le groupe sympa et tout ça. On a passé un vraiment super bon moment, mais c'était très impressionnant, parce qu'on n'avait jamais eu ce. Ben, d'un seul coup, on était vraiment à la vitesse supérieure, là, devant des gens qui venaient pas pour nous, mais qui étaient quand même assez respectueux et qui attendaient, même des fois en applaudissant, le groupe qu'ils étaient venus voir, Noir Désir.
Alors, Choose Your Tap, on en parlait tout à l'heure, dernier album en date, c'est une vraie petite merveille. D'ailleurs, merci pour ce magnifique petit vinyle qui est ici. Vous m'aviez offert gentiment il y a quelques temps, c'est un vrai petit bonheur, je pense qu'on écoutera sans doute un morceau tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet album?
Rien de plus que les autres, ou tout de plus, je sais pas, la vie. La vie, l'envie d'écrire. Des fois tu te dis, tiens, il y a un truc qui me révolte, j'aimerais bien peut-être essayer de trouver 2-3 phrases pour le dire un peu mieux. Ou d'autres fois tu te dis, tiens, il y a un truc qui est cool, j'aimerais bien aussi... Voilà, si ça passe la censure du Politburo, et si on arrive à écrire ça à peu près bien, ça finit en chanson. Mais l'inspiration, c'est encore une fois, c'est rien n'est contrôlé, c'est pas du tout un truc prétentieux, la magie de la... Non, en fait, on rentre dans un local, puis des fois, au bout de 4 heures, il n'y a rien, et puis des fois, au bout de 4 heures, il y a des trucs, voilà.
D'accord. Donc, ce disque, il a déjà 4 ans, alors j'imagine que le suivant est déjà en cours, non?
Le suivant devrait être en cours, mais alors il y a un truc aussi, c'est pareil, les Burning Heads ne savent pas faire une liste énorme de choses, et on ne sait pas faire des concerts et composer en même temps.
C'est vrai, je comprends.
Donc là, on n'arrête pas de dire aux gosses qui nous servent de tourneur de lever un peu le pied. Voilà, mais oui, ce serait bien, ce serait plutôt pas mal qu'on rentre en studio. On a fait quelques trucs, on a eu des petites expériences en studio, on a enregistré avec des élèves à Toulouse, dans un lycée, on a fait des petites interventions un peu artistico-éducatives, et on a enregistré quelques petits trucs, mais là, il n'y a rien de sérieux.
Alors, à propos de moi, mais il me semble que vous êtes papa.
Oui.
J'imagine que vos enfants, ils doivent être fiers du parcours qu'ont fait leur papa pendant ces 30 ans.
Ils sont pas, enfin, c'est pas vraiment le sujet. Enfin, les enfants, ils sont nés là-dedans et voilà, ils ont vécu, ils vivent là-dedans. Donc après, ils sont plus ou moins dans le même style. Enfin, ils écoutent plus ou moins la même chose que nous, soit par défaut parce que c'est ce qu'on écoute à la maison, soit parce qu'ils aiment bien ça. Mais je sais pas, c'est chacun, chaque famille. C'est différent pour chaque famille, mais il y a quand même ils viennent de temps en temps sur les concerts, enfin ils suivent ça, ils sont c'est surtout pour nous super super intéressant, parce qu'en étant musicien, en étant intermittent, On est beaucoup à la maison et on peut être pas mal proche de eux. Justement, le fait de ne pas travailler tous les jours pour un boulot, de ne pas quitter la maison tous les jours, on a plus de temps à passer avec eux. Mais après, voilà, enfin, c'est comme... Il y a des ados, enfin, nos enfants sont tous plus ou moins plutôt ados, et bah, il y a des ados rebelles, et des ados moins rebelles, et voilà.
Alors comme c'est un des piliers quand même de la scène alternative française, je rappelle que nous sommes avec JB et Thomas de Burning Heads, 30 ans de scène, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez... Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir, par exemple, à vos débuts, et que vous souhaiteriez transmettre à des jeunes qui éventuellement nous écoutent tout de suite, un conseil que vous donneriez à un jeune groupe qui démarre
Pas de conseil. Le conseil, c'est... Non, on n'a rien à dire.
Prendre du plaisir dans ce que tu fais.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu t'es amusé? Si oui, continue. Sinon, change de truc,
carrément.
Mais c'est avant tout, c'est ça. C'est pas pour faire genre, pour faire comme, pour faire pour. C'est pas pour être célèbre, pour faire comme son pote. C'est fait si t'as envie. Moi et mon fils, tout à l'heure, on parlait des enfants. Mon fils, il a 17 ans. Et il est à 20 000 bornes de la musique, du punk rock, de ça. Lui, il faut que ça soit animé sur un écran, avec une musique débile japonaise. Il trouve ça super. Donc je me dis, c'est rassurant. Moi, pour mes parents, à l'époque, j'écoutais de la merde. Si mon fils écoute de la merde, c'est peut-être dans la suite logique des choses.
Ok. Voilà, on rappelle qu'on vous retrouve ce soir à la Lotoile d'Alençon pour cette superbe soirée organisée par l'asso Rafale. Vous allez jouer avec Spreadlight. Il me semble que vous avez déjà partagé la scène avec eux.
Exactement, je crois bien. Oui, oui. Ce nom ne m'est pas inconnu.
Ok, vous jouez à quelle heure en fait?
Le concert, c'est à 20h30 et après, bah, les concerts sont dans la foulée, quoi. Je pense que Spreadlight, ça doit être 21h et nous vers les 22h30.
D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci les gars.
Merci beaucoup.
Ça va pas être très conventionnel, au lieu de vous proposer d'écouter le dernier album, j'ai envie d'écouter I Was Wrong. Est-ce que ça vous va?
Aucun problème. On a le droit de reconnaître ses défauts. Pas de
soucis. Pourquoi? T'étais pas trop fan d'I Was Wrong?
Ah, ben non, mais c'est ça.
C'est le titre.
C'est ça,
c'est
oui, j'avais peur.
Vous n'avez pas tilté. Voilà. Ok, merci les gars. Eh bien, merci. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
I know my now.
bien, je ne m'en lasse pas. C'était I Was Wrong de Burning Heads. À l'instant, nous avions la chance d'avoir nos amis camarades de jeu, Thomas et JB des Burnings, pour quelques minutes de direct avec nous. Et ce soir, on va prendre plein les oreilles. Donc, à la l'étoile pour eh bien, cet événement incontournable qui est le Rafale en son, organisé donc par l'assaut Rafale avec les Orléanais de Burning Heads et les morceaux de Spread Like.